France Inter.
Écrivaine et directrice de la collection Fauteuse de troubles chez Julliard, Vanessa Springora continue de revisiter son passé pour se réapproprier son histoire et mettre ses mots à elle à la place de ceux qu'on lui a longtemps imposés comme seuls faisant état de la vérité. Après avoir relaté dans Le Consentement la relation qu'elle eut à l'âge de 14 ans avec l'écrivain Gabriel Mazneff, de 35 ans son aîné, elle se penche sur les vies de deux hommes de sa famille, celle de son père mythomane et celle de son grand-père dont l'image de héros a été ternie par une découverte de photographie. Il faut ici préciser le contexte et revenir quelques années en arrière lorsque l'ancienne directrice des éditions Julliard se rend à la grande librairie pour parler du consentement, ce qu'elle ne fera pas finalement ce soir-là. La police vient en effet de lui annoncer au téléphone la mort de son père, qui a déserté sa vie très tôt et avec lequel elle n'avait que des rapports lointains. Elle doit aller constater le décès de celui qui l'a faite par cette disparition physique, deux fois orpheline. La culpabilité est immédiate. Elle pense à un suicide et à son absence de réponse au dernier SMS de son géniteur. Elle découvre un capharnaüm dans l'appartement de sa grand-mère où son père vivait. Seule pièce gardée intacte, la chambre de la grand-mère où Vanessa Springora va découvrir des clichés de Joseph, son grand-père tchèque adoré, déserteur de la Wehrmacht dont on parlait toujours comme d'un héros. Mais l'homme fut aussi membre du parti nazi ainsi que mécanicien pour les troupes américaines alliées. Une enquête sur deux hommes et un patronyme qui aboutira peut-être à l'unique vérité, c'est qu'il n'y en a jamais une seule. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Je parlais un peu comme notre star, Monsieur Drouel. Bonsoir Vanessa Springora.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Qui m'a enthousiasmée ? Alors moi j'étais plutôt partie sur... aujourd'hui, une journée plutôt sombre, je pensais aux incendies en Californie, et je suis pas du tout dans un grand enthousiasme. Alors, je vais dire quelque chose de qui paraît très narcissique, c'est que ce qui m'enthousiasme en ce moment, c'est la réception de mon nouveau livre, parce que je trouve que c'est une chance extraordinaire quand on arrive avec un deuxième livre après Le Consentement, d'être lu aussi bien, d'avoir des retours critiques magnifiques et des retours de lecteurs déjà qui font écho à cette histoire universelle et collective de la Seconde Guerre mondiale. Ça me touche énormément et évidemment ça m'enthousiasme.
Votre livre s'appelle Patronyme. Quel patronyme auriez-vous aimé porter ?
Alors j'aurais aimé porter un patronyme de grande écrivaine. J'aurais aimé m'appeler Marguerite Duras.
J'hésitais avec Yourcenar, parce que Yourcenar, ça en jette aussi.
Oui, c'était pas son vrai nom.
Ah bon ?
Aucune des deux d'ailleurs. Toutes les deux, c'était des pseudonymes.
Ah oui, bah elles ont eu très bon goût.
Elles ont eu très bon goût, mais en même temps, Marguerite de Criancourt, c'est assez chic aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Peut-être un peu trop. Donne à Dieu, il y avait quelque chose aussi d'un peu mystique. Quelqu'un qui donne à Dieu, en général, c'est Dieu qui vous donne. Je sais pas pourquoi elle l'a renié, ce nom. Duras, finalement, c'est peut-être moins bien que donne à Dieu.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Souvent très difficile. Je suis pas très amie avec moi-même en général. J'ai tendance à être en guerre avec mon corps qui me harcèle assez souvent. Mais sinon, ça va mieux en vieillissant. Plus je vieillis, mieux je m'entends avec moi-même.
Justement, est-ce qu'en savoir plus sur son passé, est-ce que se pencher dessus accroît la peine ou apaise la peine, ou alors cela n'a aucun effet ?
Moi, j'ai l'impression que ce qui accroît la peine, c'est la surdité du monde, c'est quand les gens autour de vous ne partagent pas avec vous la même vision du monde, pas forcément une vision uniforme, mais la même urgence à laquelle on est confronté. Ça de lutter contre le fascisme, de lutter contre l'effondrement climatique. Voilà, ça aggrave les choses. De pas se sentir unis face à ces périls.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Vanessa Springora, vous publiez Patronyme chez Grasset, livre débuté en juin 2022 et qui a interrompu la rédaction d'un roman féministe historique qui deviendra peut-être un scénario. Est-ce que c'était sur les sorcières ?
Oui, comment vous savez ça ?
Parce que j'ai lu.
Enfin, c'était pas sur les sorcières, parce que ça c'est un peu vaste et puis ça a déjà été pas mal exploré. C'était sur la réalité de ce qu'étaient la plupart du temps les sorcières, c'est-à-dire des médecins, des femmes médecins. Donc c'était plutôt sur l'exercice illégal de la médecine au XVIe siècle, sous l'Inquisition.
Oui, comme celle qui faisait par exemple les avortements ou les choses.
Oui, mais on pense toujours aux avorteuses, parce que c'était l'argument qui était mis en avant par l'Inquisition et par l'Église pour les condamner au bûcher. Mais en réalité, pour être avorteuse, c'est d'abord qu'elles étaient accoucheuse, et surtout c'était, comme l'écrit Michelet, le médecin du peuple. Il n'y avait pas de médecin dans les campagnes, et c'était effectivement les avorteuses, comme vous dites, qui soignaient tous les petits maux. Il y avait même des stands dans les marchés où elles avaient une science incroyable de l'herboristerie qu'on a complètement perdue d'ailleurs. On venait les consulter pour tout un tas de maux, y compris elles faisaient des réductions de fractures, enfin des choses très complexes. Et surtout, je me suis aperçue qu'il y avait des médecins sous l'Antiquité, des médecins femmes, et que même le mot physicienne ou médecine, en fait, était très répandu jusqu'au Moyen-Âge.
Mirèse.
Et c'est, voilà, exactement, la Mirèse aussi, parce qu'elle regardait les humeurs, tout à fait, et que c'est seulement, c'est l'Académie, comme toujours, mais l'Académie de médecine, qui a interdit, au XIIe siècle, je crois, l'exercice de la médecine aux femmes. Et il a fallu attendre 1870 pour qu'une femme, en France, puisse avoir un diplôme officiel de médecin.
Vous allez, j'espère que vous allez continuer, parce que là, moi, j'attends. Vous allez en faire quoi, alors? Un roman ou...
Écoutez, maintenant que j'en ai parlé à tout le monde,
oui.
Je pense que ce sera fait avant que je m'y mette.
Très bien, très bien. Vanessa Springora, vous aviez quitté le poste de direction des éditions Julliard en 2021, et le déclic pour rédiger le livre Patronyme, c'était l'invasion russe en Ukraine, en 2022.
Oui.
Pourquoi?
Alors, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, l'histoire de l'Europe m'a toujours intéressée. Je crois que c'était un moment qui était très brutalement choquant, parce que ça faisait des semaines qu'on entendait parler de cette invasion et qui n'arrivait pas. Et tous les experts politiques, sur tous les plateaux de télé, dans les rédactions de journaux, disaient que c'était impossible, que jamais Poutine n'envahirait l'Ukraine. Et voilà, quelques semaines après, c'était le cas, pourtant. Donc, comme quoi, il faut se méfier. Et en fait, c'est une histoire tout simplement qui faisait écho à l'histoire de mon grand-père, de l'histoire des Sudètes et l'histoire de la Tchécoslovaquie, qui est une histoire que j'ai découvert plus finement en voyageant et en me penchant sur les archives de cette époque. Et ça renvoie à l'histoire de Munich, et c'est une vraie question que je me suis posée à l'époque, qu'on aurait pu se poser déjà en 2014 au moment de l'invasion de la Crimée. Est-ce que, là encore, l'Europe était en train de se coucher devant la démonstration de la force? Et est-ce qu'on était à nouveau des Munichois?
Votre livre est dédié à tous nos fantômes. Est-ce que vous en avez beaucoup? Et quel est votre rapport à eux? Est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous avez des rituels pour honorer leur mémoire?
Alors, déjà, j'ai souvent l'impression, oui, de sentir des présences, pas forcément déterminées, pas des personnes que je connais. J'ai souvent l'impression qu'il y a une perméabilité avec un autre monde qui serait celui des esprits des disparus, que je ressens très fort à des moments, et j'essaie de lutter parce que ça peut être même assez anxiogène. Mais pour ce livre-ci en particulier, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé aux morts, j'ai beaucoup parlé à mon père, j'ai beaucoup parlé à mon grand-père, j'ai même parlé à ma grand-mère, j'ai beaucoup parlé à mes défunts, j'ai parlé aussi aux morts de la Shoah. J'ai senti ces présences très fort, elles m'ont accompagnée, et je crois complètement, même si c'est un peu désuet aujourd'hui, aux fantômes et à leur présence, oui.
Vous affirmez que ce livre témoigne aussi de votre inquiétude concernant l'avenir de l'Europe. Là, on vient d'évoquer l'Ukraine, mais vous dites qu'en fait, le patronyme, c'est ce qu'il y a au centre de tout.
C'est au centre de tout parce que c'est la première incarnation du patriarcat et le patriarcat est à l'origine de beaucoup de nos souffrances, y compris le capitalisme. Et quand on met les deux ensemble dans une forme extrême, on arrive au fascisme. Je pense que le fascisme est une réponse à une angoisse de dévirilisation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça irrigue cette angoisse, elle irrigue aussi bien le discours d'un Poutine que le discours d'un Trump. Mais j'ai l'impression que l'Europe, qui est coincée maintenant entre ces deux perspectives terrifiantes, d'autoritarisme, de propagande, de rapport complètement faussé à la vérité, est en train de se laisser contaminer elle aussi, et par cette tentation du rejet de la démocratie et du rejet de la paix, tout simplement, par un retour à une espèce de national-populisme qui ne peut pas conduire à autre chose qu'à la guerre. Mais en même temps, j'ai envie de croire qu'il y a encore des voix importantes, des intellectuels, des militants partout, et de la paix, et surtout de la tolérance et du partage, et de la solidarité, qui vont prendre le dessus.
C'est ce qu'on espère, mais parce que le patronyme, ça peut aussi dévoiler une identité. On peut projeter dessus, ça peut exacerber des rejets. En parlant de subir, c'est aussi un héritage qu'on reçoit parfois sans le vouloir. On reçoit un nom et on ne peut pas s'auto-engendrer pour le moment, hélas, mais on est en train de travailler dessus. Mais...
Oui, alors c'est vrai que dans patronyme, ce qui m'intéressait, c'est les racines qu'on entend successivement. D'abord, patronyme, c'est effectivement le nom du père. C'est le nom qu'on reçoit en tant qu'enfant, qu'on soit un garçon ou une fille d'ailleurs. Quand on est un garçon, on a des chances de le garder, ce nom, et en plus de le donner à quelqu'un d'autre, à sa femme. Quand on est une fille, on sait qu'on le perdra et que c'est déjà en soi le nom d'un homme et qu'on, dans une majorité de cas, on prendra le nom d'un autre homme. Donc, c'est pas un nom très personnel, mais dans patronyme, on entend aussi patrie, qui est au centre, la patrie étant au centre de mon livre, et le rapport à, justement, cette loyauté obligatoire, cette appartenance qui nous est donnée dès la naissance, et vis-à-vis de laquelle on a ou pas la possibilité de faire ses propres choix. Et puis, il y a aussi la notion d'héritage, comme vous voulez de le dire. On entend aussi patrimoine dans patronyme.
Comme le livre de Philippe Roth que vous adorez.
Comme le livre de Philippe Roth que j'adore, absolument. Oui.
Et qui raconte la maladie et la mort de son père. Vous en parlez aussi. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne. Est-ce que je peux dévoiler votre vrai nom, ou parce que j'ai vu dans plusieurs articles qu'il était dévoilé, ou je dis simplement que vous avez découvert votre vrai nom?
Non, vous pouvez le dire, c'est important.
Springer.
Oui.
Et donc ça signifie sauteur, saltimbanque, et en allemand c'est le cavalier au jeu d'échecs, et ça a aussi donné le verbe signifiant se répandre en parole. Est-ce que vous pensez, Vanessa Springora, que les noms nous déterminent, que les noms nous influencent?
Alors je suis persuadée de ça. Moi je suis très sensible depuis toujours. Alors peut-être parce que j'ai hérité de ce nom qui était mystérieux, et d'ailleurs sur lequel tout le monde m'a toujours interrogée depuis toute petite. D'abord parce que c'était un nom à consonance étrangère. Ensuite parce que c'est pas un nom banal.
C'est un apax. Qu'est-ce que c'est qu'un apax?
C'est un apax, effectivement. C'est un nom qui n'apparaît qu'une fois dans la langue, chez les linguistes. Alors en général on l'utilise plutôt, cette expression apax, pour des noms communs. Mais en l'occurrence ça l'est aussi là, en tant que nom propre, puisque c'est un nom qui a été donc inventé toute pièce par mon grand-père pour se forger une nouvelle identité et se débarrasser d'un passé un peu embarrassant. Mais c'est aussi un nom qui va disparaître, puisque mon père et mon oncle, qui étaient deux garçons, ont pourtant fait deux filles chacun. Enfin, ils n'ont eu chacun qu'une seule fille. Et comme je n'ai pas souhaité transmettre mon nom à mon fils, et que voilà, ma cousine non plus, ses enfants portent le nom de leur père, eh bien ce nom disparaîtra avec nous. Voilà. Donc
vous en éprouvez quel sentiment?
J'en éprouve pas de tristesse, mais je crois que j'ai éprouvé l'urgence de raconter son histoire, puisque c'est une histoire brève qui a traversé un siècle, l'histoire de ce nom, et je la trouve très intéressante parce qu'elle parle à la fois des non-dits, de la façon dont les secrets de famille peuvent être dévastateur, ça a été le cas pour mon père, et ça renvoie aussi aux stigmates que peuvent être les noms dans certaines périodes historiques. Ça a été le cas pour les juifs, et comme ça a été le cas finalement, ironiquement, pour mon grand-père qui, portant un nom allemand, Springer, à la libération en France, alors qu'il se trouvait en Normandie, a dû le faire modifier pour effacer et gommer cette consonance allemande.
Tout à l'heure, on a évoqué patrimoine de Philippe Roth sur la mort de son père. Et tout à l'heure, vous avez aussi évoqué l'idée d'allégeance à l'héritage, ce qu'on doit aux ancêtres, ce dont on hérite. Quand votre père est décédé, le livre Le Consentement était paru depuis 6 jours, c'est ça?
Oui, exactement 6 jours, oui, c'est ça. Il était paru le 2 janvier.
Et votre premier sentiment, ça a été la culpabilité. Vous avez cru à un suicide?
Oui. J'ai cru à un suicide, ce qui est fou d'ailleurs de penser, d'accorder autant de pouvoir à un livre et à des mots et à l'écrit, mais...
Parce que vous parliez de son absence dans ce livre aussi.
Oui, évidemment, je le critiquais avec beaucoup de véhémence dans une première partie du Consentement, parce que j'ai toujours pensé que son absence dans ma vie, le fait qu'il n'ait pas su me protéger, m'avait aussi précipité dans les bras, d'une certaine manière, de Gabriel Matzneff. Mais d'un autre côté, en sens inverse, c'est assez curieux que j'ai pu penser que ce livre ait pu être responsable de sa mort, mais je crois que c'est parce qu'intuitivement, je sentais aussi qu'il y avait quelque chose chez lui qui était de l'ordre d'un suicide programmé, un suicide à petit feu. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai découvert, c'est qu'il s'était complètement enseveli chez lui, tout seul, enfin dans une solitude et une détresse, une misère affective totale, et aussi sous un tombereau de d'objets, parce qu'il avait cette maladie, ce syndrome de Diogène. Mais pas uniquement, il y avait aussi cet appartement complètement scindé en deux, avec le mausolée de ma grand-mère qu'il entretenait, puis sa partie à lui qui était comme une espèce d'antre de clochard, même s'il était logé, mais... Donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre du suicide chez lui, et au fond, je pense que sans avoir de lien avec lui, j'avais deviné qu'il était en train de partir.
Vous évoquez sa mythomanie qui est assez notable, et il y a un souvenir, c'est un jour, vous êtes à table avec lui dans un restaurant, il y a une femme qui entend votre discussion et qui se tourne vers vous et qui vous dit « Mademoiselle, vous devriez cesser de fréquenter ce monsieur ». Et quand j'ai lu ça, je me suis demandé si c'était pas la phrase clé de votre vie, la phrase qui n'a pas été assez prononcée, voire imposée. Je pense évidemment au livre précédent.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai raconté cette anecdote, j'ai trouvé que c'était ambigu, parce qu'il y avait un risque de laisser croire que mon père avait été incestueux, ou même... alors que c'est pas de cet ordre-là.
Non, c'est pas du tout ce qu'on comprend.
C'est pas du tout le sujet du livre, et c'est pas du tout ce que j'ai reproché à mon père. Mais c'est vrai que c'était très étrange, cette déclaration de cette femme. C'était quand je me suis souvenue de cette anecdote, je trouvais ça fou, parce qu'effectivement, ça résonne beaucoup avec ma rencontre avec Matzneff. Mais je crois que ça disait surtout une chose, c'est que quand mon père m'invitait au restaurant quand j'étais petite, ce qui était à peu près la seule chose qu'il savait faire avec moi, en fait, quand il venait, parce que parfois il ne venait même pas, il était comme un étranger, et cette femme n'avait pas deviné que c'était mon père. Et comme il était effectivement mythomane à l'époque, il m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je crois que je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça, et j'avais dit que je voulais être chanteuse parce qu'il adorait les chanteuses, dont Françoise Hardy, qu'il écoutait tout le temps, et je voulais lui plaire, bien évidemment, hein, comme toutes les petites filles avec leur papa. Et il a tout de suite nommé un certain nombre de personnes, de producteurs, de gens qu'il connaissait absolument pas, mais parce que c'était le discours habituel chez lui. Il était mythomane et il s'inventait toujours des liens avec des célébrités qu'il n'avait pas.
À Libération, vous avez confié que vous n'aimiez pas vous livrer, mais que l'écriture vous permettait d'explorer des questions liées à votre identité. Est-ce que vous avez hésité à livrer certains détails au sujet de votre père ?
Oui, j'ai beaucoup hésité, surtout sur la partie, tout ce qui concerne sa sexualité et son orientation sexuelle en réalité. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même de le raconter, parce que justement, comme ce livre est aussi une exploration de ce qu'est la masculinité et des assignations aussi qui pèsent sur les hommes, j'ai trouvé incroyablement touchant, tout en découvrant ce passé nazi de mon grand-père, de m'apercevoir que mon père avait lutté toute sa vie contre son homosexualité, qu'il n'avait pas pu exprimer, parce qu'il était tout simplement dans une famille où ça n'aurait pas été compris, ça n'aurait pas été entendu, ça n'aurait pas été accepté. Et on sait très bien à quel point Hitler a persécuté également les homosexuels. On le voit encore une fois aujourd'hui aussi. Enfin, cette obsession des néo-fascistes avec le genre ou l'orientation sexuelle, c'est vraiment une obsession. Et c'est quelque chose qu'il faudrait creuser davantage d'ailleurs. Mais donc j'ai hésité à révéler ces détails sur son intimité. Je me suis sentie parfois un peu voyeuse et je m'en suis voulu. Et en même temps, je trouve que c'est important de dire que cet homme aussi est mort de ne pas avoir pu être qui il était.
Est-ce que quand on enquête sur ses géniteurs et qu'on découvre les sujets de leur souffrance, on est plus à même avec eux même s'ils se sont mal comportés ?
Alors forcément, il faut se méfier du regard rétrospectif, mais effectivement, oui. On a toujours tendance à être un petit peu plus bienveillant, un peu plus clément avec les disparus.
C'est vrai.
J'ai essayé de pas trop l'être, mais je crois que le livre évolue dans le ton. Dans la première partie, on sent qu'il y a encore beaucoup de colère vis-à-vis de lui. Mais effectivement, chemin faisant, à la fin du livre, j'ai beaucoup plus de clémence, mais aussi parce que j'ai compris qu'il y avait énormément de choses qui avaient pesé sur lui, notamment ce secret concernant son propre père, ce passé, que sa mythomanie avait aussi finalement des raisons d'être. Il y avait à la fois une sorte d'identification mimétique au mensonge fondamental de son père sur sa propre identité, et aussi peut-être le désir d'échapper au contraire au spectre du passé de son père en s'inventant de nouvelles identités qui changeaient au gré des époques. Donc ça m'a permis d'avoir un regard un tout petit peu plus bienveillant sur tout ce qui m'avait fait énormément souffrir dans ma jeunesse et que je ne comprenais pas chez lui. Quand on comprend, déjà, la moitié du chemin est faite, enfin, pour le pardon.
Vous avez découvert aussi qu'il écrivait, vous avez trouvé un manuscrit et vous l'avez perdu.
Oui. Mais ça, c'est vraiment un drame que j'arrive pas à m'expliquer. Alors, ce livre, effectivement, ce manuscrit était dans ses affaires. Je l'ai mis de côté à un moment donné. Il s'intitulait Le Briquet. J'ai découvert que c'était un roman policier, en le feuilletant comme ça brièvement, qu'il avait été refusé par les éditions Gallimard à peu près à la fin des années 60. Donc, je pense que mon père, était très jeune à l'époque. Il devait avoir une vingtaine d'années. Et ça m'a énormément touchée de découvrir ce lien commun avec lui. C'est-à-dire que j'ignorais complètement que mon père avait eu des velléités d'écrivain, d'écriture. Et puis, en même temps, ce manuscrit, quand je suis arrivée chez moi avec les quelques affaires que j'avais mises de côté, a complètement disparu. Je ne l'ai jamais retrouvé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit il est passé dans la quatrième dimension, soit il a disparu de son propre chef pour que j'écrive Patronyme, peut-être.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
L'oubli, c'est une grande énergie, disons négative, qui est capable d'absorber et dévorer tout. Et aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui savent utiliser cette énergie négative et qui organisent l'oubli.
Vous-même, en quittant votre pays, est-ce que vous y avez oublié beaucoup de choses? Est-ce que vous y avez laissé beaucoup de choses?
Naturellement, j'ai laissé beaucoup de choses. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé le paysage auquel je suis très attaché, dans lequel je suis enraciné. Je rêve presque chaque nuit le paysage de ma patrie. Mais je crois que cette émigration ne signifie pas pour moi l'oubli, au contraire.
Vanessa Springora, vous avez voulu qu'on entende la voix de Kundera au micro de Patricia Charnelet en 79 sur Antenne 2. Kundera, écrivain que vous admirez beaucoup et qui apparaît dans votre récit Patronyme, effacé par les communistes comme Kafka par les nazis, et qui est né en Moravie comme votre grand-père Joseph.
Oui, ça m'émeut beaucoup toujours d'entendre sa voix. D'abord parce qu'il a cet accent délicieux, mais il y a surtout quelque chose de très très angoissé chez lui toujours. Et puis la façon dont il manie le français aussi, que je trouve extraordinaire. Bon, évidemment, on sait qu'il a fini par écrire même dans cette langue, mais et puis ce qu'il raconte sur l'exil et sur l'oubli, ça me touche énormément parce que ça me renvoie évidemment à l'histoire de mon grand-père qui n'a jamais pu retourner dans son pays puisqu'il est mort avant la chute du mur en 83. Et Et puis il y a aussi le fait que Kundera, pour moi, c'est aussi c'est une voix humaine, mais c'est aussi une voix d'intellectuel européen. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces personnalités, ces grandes figures du XXe siècle qui étaient un peu des guides pour nous aider à nous retrouver un peu dans cette espèce de forêt noire dans laquelle on est en train de s'enfoncer. Et je me demande souvent ce qu'ils penseraient de la situation actuelle aujourd'hui, de la situation de l'Europe notamment.
Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues, les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre.
1956, le documentaire Nuit et brouillard d'Alain Resnais, texte de Jean Cayrol, narré par Michel Bouquet, un film que nous sommes nombreux à avoir vu au collège, comme vous, Vanessa Springora. C'est à cette occasion d'ailleurs que vous comprenez qu'une de vos camarades est juive, puisqu'elle se lève et elle quitte la projection. Vous dites avoir un rapport caché obsessionnel à la Shoah depuis toujours, et vous découvrez pendant la promotion du consentement que votre grand-père a, en tenue d'escrime, une croix gammée et un aigle nazi sur l'épaule.
Oui, ça peut expliquer, évidemment. Ça peut expliquer le fait que j'ai eu ce rapport assez étrange, puisque n'étant pas juive, n'étant pas concernée directement par la Shoah, j'avais un petit peu du mal à m'expliquer ce sentiment, et parfois ces obsessions, et parfois ces cauchemars d'ailleurs que j'ai fait, comme si moi-même j'avais été victime. Mais je pense que ça tient aussi au fait qu'il y a des choses qui sont remontées, que j'avais refoulées, des déclarations antisémites de mon père, dans ma jeunesse.
Des dessins
qu'il avait fait sous mes yeux, de la tête d'Hitler. Je raconte qu'il dessinait la tête d'Hitler sur un bloc-notes comme s'il avait dessiné Pif le chien ou Mickey. Ce qui me paraissait pas normal sur le moment, puisque c'est quelque chose que j'ai complètement refoulé, mais c'est resté toujours là, au fond de moi. Il y avait aussi une obsession des non-juifs. La première fois que j'ai entendu le mot juif, c'était au sujet des noms, et je raconte cette scène dans mon livre, quand mon grand-père regardait l'émission numéro 1 de Maréty et Gilbert Carpentier, qui me faisait remarquer quand les noms étaient juifs. Gainsbourg, c'est Ginsburg, c'est juif, ou Michel Berger, c'est Berger, c'est juif. Voilà. Et c'est la première fois que j'ai entendu ce mot juif, c'était pour caractériser des noms. Et ça, c'est un discours que j'ai entendu ensuite chez mon père aussi, à plusieurs reprises. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose, évidemment, mais je l'avais complètement refoulé et oublié. Et c'est pour ne plus oublier cette histoire que je l'ai racontée cette fois-ci dans Patronyme.
Il y a aussi cette question de la culpabilité qui est très intéressante, puisqu'à un moment vous parlez d'une chose qui vous fait ressembler à votre grand-père, que vous gommez, et vous vous sentez comme si vous l'aviez trahi. Et en fait, j'aimerais qu'on parle de la culpabilité éternelle qu'on a envers les morts, même ceux qui se sont mal comportés. Christine Angot était à ce micro l'année dernière, et on parlait de l'éternelle culpabilité des victimes.
Oui, on peut pas s'empêcher de penser que... qu'on l'a bien cherché, vous savez, c'est comme la blague horriblement sexiste si tu sais pas pourquoi tu gifles ta femme, t'inquiète pas, elle sait pourquoi.
Ouais.
Ben, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir, effectivement. Après, moi, je me sens pas coupable aujourd'hui. Je me sens pas coupable de cette histoire. Je n'ai pas honte non plus de cette histoire. Je trouve que c'est important de la raconter sans honte et sans culpabilité. Parce que aujourd'hui, on n'en est plus là. On est les héritiers. Nous, notre devoir, c'est de la transmettre. C'est de lutter encore une fois contre l'engloutissement de cette histoire. Mais essayer d'empêcher qu'elle se reproduise. C'est ça qui compte. Mais je me sens libérée de la culpabilité aujourd'hui.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Vanessa Springora, en tout cas, vous êtes aussi évidemment lectrice et plusieurs lectures ponctuent votre récit. Il y a Mendelssohn et sur le toit du Tchèque Yuri Veil, il y a tous les noms du Portugais José Saramago. Il y a un ami qui vous conseille un moment des hommes ordinaires de l'historien Christopher Browning. Là, c'est une commotion. Est-ce que vous voulez en dire un mot avant que je dise le dernier titre ?
Oui, c'est un livre extraordinaire d'historien, mais qui se lit vraiment très facilement, que je recommande à tout le monde, qui raconte la participation active de la police de l'ordre à la Shoah, donc à l'extermination des Juifs d'Europe, mais notamment par la Shoah par balle. Mais pas uniquement, puisque dans les déportations, et y compris d'ailleurs dans l'acheminement des trains, la police de l'ordre était là, aux côtés des SS. C'est un livre qui raconte ce que c'est que des tortionnaires ordinaires, comment des hommes lambda consentent à la barbarie, tout simplement.
L'autre livre, alors là, c'est de l'humour noir, c'est un chef-d'œuvre tchèque aussi, c'est Le brave soldat Svejk de Jaroslav Hašek.
Oui, alors ça, c'est un livre génial qui est assez peu connu par notre génération, parce que c'est un livre qui a été écrit en 1918, enfin tout de suite après la Première Guerre mondiale, mais qui est un peu comme le Don Quichotte tchèque, c'est vraiment un livre incontournable de la culture tchèque, qui est extrêmement drôle et qui est une sorte de plaidoyer pacifiste qui raconte l'histoire d'un soldat qui fait tout pour échapper au front et qui se fait passer pour un imbécile, un idiot. C'est délicieux, il faut vraiment le lire absolument.
We'll be right back.
Donna Summer, I Feel Love dans la 20e heure sur France Inter, et j'ai choisi de le passer parce que c'est l'un de vos titres fétiches, Vanessa Springora.
Mais oui, je ne sais pas comment vous savez ça, mais
j'ai lu la presse.
C'est vrai, j'adore. C'est vraiment, pour moi, c'est un manifeste féministe, cette chanson. Puis il y a Giorgio Moroder derrière.
Le génie absolu. Voilà.
Génie absolu. Et puis cette voix extraordinaire et tout cet amour qu'elle donne, quoi.
Et je vous ai demandé un choix musical pour l'émission, c'est celui-là.
I saw you under the neon light that evening with no moon. The blue beaming through the dark door. You walked out and asked me all these weird questions, as if I knew the answers. Like, why are we here? Who's there? And it went on. You looked at me like if I had a clue, like I just knew. That's probably when I discovered that I would never get to. You pushed through and then disappeared again through that dark door's hue.
Every night, du groupe français Camp Claude, mais qu'on a envie de prononcer Camp Claude. On ne sait pas. Vous les avez découverts récemment, Vanessa Springora.
Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas comment on prononce. Moi, je dis Camp Claude. C'est un mélange anglais-français. Mais c'est une chanteuse qui a une voix extraordinaire, et c'est les deux musiciens qui l'accompagnent sont britanniques et suédois, donc c'est un groupe plutôt international. Les deux musiciens étaient membres d'un groupe qui s'appelle Tristesse Contemporaine, bien que sûr. J'aimais beaucoup aussi. C'est dans la continuité, c'est un peu rock, pop, électro, un peu new wave, enfin c'est tout ce que j'adore. Et effectivement, je les ai vus en concert cette année au Point Éphémère, et elle a une voix extraordinaire, elle fait ce qu'elle veut avec sa voix, elle a une présence géniale, et j'avais envie de la faire découvrir au public de France Inter.
Et ben moi, j'aimerais bien qu'on entende un morceau trouvé aussi dans ce fameux questionnaire musique que Libération vous avait posé. C'est là que j'ai lu Donna Summer, et c'est le morceau qui vous rend folle de rage. Enfin, folle de rage dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il excite votre colère constructive.
Non, c'était, j'avais précisé, mais ça a été retiré de l'article, que c'était la chanson qui exprimait le mieux ma colère.
Ah, alors c'est, qu'est-ce que c'est ?
Évidemment, je suis pour la retraite à 60 ans.
Les vulves assassines.
Les vulves assassines, un morceau culte.
Il y a un mot qui revient souvent dans vos interviews, c'est poupée gigogne. Vous y avez déjà fait attention ?
Ah oui, c'est marrant.
Oui. Pour patronyme, mais aussi pour un scénario sur une lignée de femmes.
Ah.
Poupée gigogne.
Bah écoutez, ça doit être mon petit côté slave qui ressort, c'est les matrioshkas, les poupées russes, les poupées gigognes. J'imagine.
Qu'est-ce qui va se passer avec votre collection Fauteuse de troubles ?
Écoutez, elle va repartir bientôt. Là, il y a eu trois titres magnifiques déjà, et elle suit son chemin. Et voilà, il y a un prochain titre qui arrivera bientôt, mais je peux pas encore en parler.
D'accord. Oui. Et la déferlante.
La déferlante. Je soutiens la déferlante activement.
C'est la revue des révolutions féministes.
Tout à fait.
Annie Ernaux, Mona Chollet et Pénélope Bagieu.
Oui, et qui est excellente, qui est une excellente revue à tout point de vue, et y compris d'ailleurs dans leur dossier de reportage sur l'actualité. On fait pas mieux.
Vanessa Springora, au début vous ne vous destiniez pas à la littérature, vous avez d'ailleurs commencé comme réalisatrice-autrice à l'INA, et vous bougez la tête.
Non, j'étais pas à l'INA. J'ai réalisé un documentaire qui a été effectivement produit par l'INA.
Ah d'accord.
Par l'Institut National de l'Audiovisuel.
Mauvaise information d'article, mais j'avais bien l'information du documentaire. Et écoutez, pour me donner une contenance, je lance tout de suite un extrait de ce documentaire.
Moi, je me souviens bien de pas une anecdote spéciale, mais plutôt son attitude, quoi, son sourire légèrement moqueur. mais en même temps assez attentif. Ouais, que son sourire, il avait des yeux vraiment bien vifs. C'était un gars plutôt présent, quoi. Quand il était là, tu pouvais pas l'ignorer, même s'il parlait pas ou quoi que ce soit, il avait une présence, quoi.
Moi, il me faisait penser à un espèce de Rimbaud, quoi, de quelqu'un de très hautain, avec son pignon en trompette, comme ça, et je le revois passer dans les couloirs avec un regard très altier, très fier, ne parlant jamais à personne. Enfin, pour moi, c'était un personnage, quoi, mais vraiment un personnage, quoi, assez mystérieux et inaccessible.
Vanessa Springora, on entend un extrait de votre documentaire de 2004, Dérive, co-réalisé avec une amie de lycée, Camila Mora Sheing, je le prononce
oui,
bien,
oui.
Sur un de vos anciens camarades, Martin, élève brillant, devenu SDF. Et c'était votre rêve de faire du cinéma au début. Il y a eu une aventure folle au Mexique et à Cuba.
Oui, vous savez beaucoup de choses.
Bien
hein.
sûr, je suis détective privée, mais bienveillant.
Oui, effectivement, mais je crois que c'est surtout, j'ai essayé par tous les moyens de fuir la littérature pour des raisons que j'ai racontées dans le consentement. Mais j'ai toujours été très cinéphile et c'est une autre forme d'écriture, le cinéma. Alors effectivement, je suis partie pour fuir la France aussi au Mexique et du Mexique où j'étais tombée amoureuse d'un réalisateur mexicain avec qui j'ai vécu quelques années. Je suis allée à Cuba étudier l'écriture de scénario dans une école extraordinaire qui s'appelle le ICTV, qui a été fondée par Fidel Castro et Gabriel Garcia Marquez dans un ancien camp militaire à 40 km de la Havane, à San Antonio de los Baños, très exactement, et qui est un endroit assez marrant parce qu'il y a beaucoup d'Américains notamment qui n'ont pas la possibilité, enfin théoriquement qui n'ont pas de visa pour aller à Cuba, surtout à l'époque encore, où il n'y avait pas eu ce petit réchauffement récent, et qui faisaient des détours incroyables, qui passaient par Miami, qui prenaient des bateaux dans ce sens-là, pour aller enseigner les effets spéciaux, par exemple, dans cette école communiste. Donc c'était assez drôle, l'ambiance, et j'en garde un souvenir incroyable.
On n'a pas le temps pour tout ce que j'aurais prévu, mais je voudrais préciser qu'à la fin de Patronyme, il y a une liste que vous avez intitulée « Quelques compagnons de route », avec plein de livres à lire, à découvrir, avec du Gombrowicz, du Freud, du Burgelin, Ilsenrath, Kafka évidemment, Kundera évidemment. Et j'aimerais juste terminer sur une citation de Gide que vous avez reprise en 2020 dans le JDD. « Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant ». C'est joli. Merci beaucoup Vanessa Springora.
Merci à vous.
Votre livre Patronyme vient de paraître chez Grasset. On découvre plein de lectures dedans, plein de pistes aussi pour les gens qui cherchent leur généalogie. Si vous menez l'enquête sur votre famille, ça vous donnera sans doute des idées. Vanessa Springora, vous participerez au Festival littéraire du Havre qui aura lieu du 16 au 19 janvier aussi, avec Miguel Bonnefoy, Kamel Daoud, Maëlys de Kerangal et Lola Lafont. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal, Irma Danich et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Adèle Caglar. À demain, 20h10.